Capital sur Radio Grand Ciel, au micro Elisabeth Couget
et Christina Fota, bonjour à tous.
Et bonjour à nos auditeurs et merci de nous écouter. Aujourd'hui, prenons la direction du sud de l'Espagne et découvrons la capitale de l'Andalousie.
Après cette introduction musicale qui donne le ton, nous voici donc dans cette ville colorée au passé multiple.
À Séville donc, mais vous l'avez déjà certainement deviné, aujourd'hui c'est Séville, mais qui à l'époque des Romains s'appelait Hispalis, puis Isbilia avec l'arrivée des Arabes, et après la reconquête, elle est devenue Séville.
Car après 8 siècles d'occupation, il fallait bien la reconquérir, comme toute l'Espagne d'ailleurs.
C'est d'ailleurs l'époque de la découverte de l'Amérique aussi.
Nous sommes à la fin du 15e siècle.
Et il n'y a que les rois très catholiques qui y croient et financeront le voyage de Christophe Colomb avec les fameux 3 navires, la Niña, la Pinta
et la Santa Maria. Et ce voyage va changer le monde.
Mais revenons au but de notre voyage aujourd'hui, donc à Séville, où les 8 siècles d'occupation arabe a laissé des traces indélébiles.
Et signalons peut-être qu'avant l'époque mauresque, d'après les légendes, il y avait Hercule qui aurait fondé la ville.
Et puis d'autres sont venus, des peuples de la Méditerranée orientale, les tribus ibères, les Grecs, les Phéniciens, les Carthaginois, qui disputaient la région aux Romains. Ensuite, Jules César fortifiera la ville et la baptisera Hispalis, tandis que les Visigoths vont en faire la capitale du sud de leur royaume.
Et au 7e siècle, un personnage humaniste va marquer et illuminer la ville. C'était l'évêque Saint Isidore.
Alors, Isidoro. Oui, c'est ça, dont il y a des très belles églises à Séville. Alors, c'est au 8e siècle, en 712, commence l'invasion arabe et la ville deviendra Isbilia pour un certain temps. Ensuite, après la découverte de l'Amérique, Séville sera une ville riche, richissime même, grâce aux ors rapportés par les conquistadors.
Et cela pendant environ 2 siècles. Mais ensuite, le commerce va se déplacer vers la ville de Cadix.
Un port qui convenait mieux pour recevoir tous ces grands bateaux qui venaient d'Amérique. Et pendant presque 200 ans, Séville sera une belle endormie. Mais l'industrialisation du XXe siècle et l'organisation de l'exposition 1929 lui redonnera un regain de vitalité.
Et cette exposition laissera à la ville, entre autres, la splendide place d'Espagne, qui est toujours un des endroits phares à visiter.
Mais avant de découvrir les vestiges des grandes expositions dont Séville était le théâtre, en 1929 et en 1992, n'oublions pas, au 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique, voyons un peu son héritage plus que millénaire. Alors, à peine arrivé, vous serez plongé dans une ambiance, un décor, un rythme de vie qui doit beaucoup, sinon tout, à des siècles d'occupation et de cohabitation musulmane.
Et Elisabeth, sais-tu pourquoi on appelle encore cette partie de l'Espagne Andalousie?
Alors, les occupants musulmans étaient les Omeyyades de la Syrie, suivis par les Almoravides et finalement les Almohades. C'est eux qui, au XIIe siècle, baptisent ce territoire Al-Andalus, ce qui deviendra un magnifique pont culturel entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Orient et l'Occident. Et par ce chemin vont se diffuser les idées, les sciences et les biens culturels précieux.
Oui, bien sûr, comme la découverte du papier, la boussole, les chiffres arabes, ou encore une médecine très réputée.
Alors, durant cette longue occupation, musulmans et chrétiens ont su cohabiter. Ce profond métissage a donné des créations exceptionnelles que la reconquête n'a heureusement pas tout à fait effacées. Les musulmans ont laissé une empreinte très marquée dans la culture andalouse, et non seulement à Séville.
Comme par exemple dans la construction des villes, qui en général étaient organisées autour de la médina, souvent fortifiée, avec des rues étroites et labyrinthiques, des mosquées, des souks, des hammams et tout ça.
Oui, bien sûr, à Séville comme ailleurs d'ailleurs, le passage urbain a bien changé au cours des siècles, mais on retrouve l'ancienne médina dans le quartier de Santa Cruz. Qui, avant la reconquête, abritait la Juderia, autrement dit le quartier juif, juste à côté de l'Alcazar, qui à l'époque était occupé par les autorités.
Et dans l'héritage musulman de Séville, en plus de l'Alcazar, il y a aussi d'autres aspects que l'on peut indiquer, certainement.
Alors, probablement, il y a déjà la maison andalouse typique et son patio. Elle est close vers l'extérieur, s'ouvre sur l'intérieur et vers le ciel, grâce au patio, qui est en fait le véritable cœur de l'habitation et de la vie de famille, avec de ravissantes fontaines ornées d'azulejos et où abondent des plantes odorantes. Alors, dans le quartier de Santa Cruz, des maisons semblables rivalisent de beauté en très très grand nombre.
C'est vrai, et puis il y a aussi les jardins, dont l'art fait aussi partie de l'essentiel de Séville et de l'Andalousie.
Alors, Séville doit aux musulmans son amour de la nature et des jardins, qui sont toujours isolés du monde, donnant l'image du paradis avec en son centre une fontaine qui murmure une musique enchanteresse et rafraîchissante.
Comme c'est beau.
Symbole de la poésie, de la pureté et de la vie, l'eau est un élément capital de l'art islamique.
Auquel s'ajoutent les céramiques et l'architecture, qui se marient admirablement avec la végétation luxuriante et parfumée, d'ailleurs entretenue par des systèmes d'irrigation très ingénieux.
Alors ne manquez pas les jardins du Real Alcazar, parsemés de bougainvilliers. À l'époque de la dynastie des Almohades, on y sentait le myrte, l'orange et le jasmin.
Et juste avant notre première ou deuxième pause musicale, pourrais-tu nous parler un peu de ces céramiques, justement, que l'on voit partout?
Alors que les Espagnols appellent azulejos, et qui vient d'un mot arabe, azulej, ce qui veut dire petite pierre. Ces carreaux de céramique émaillée importés par les Arabes ont trouvé leur place sur les façades des édifices, ou à l'intérieur, ou décorent les maisons, et dont le genre la merveille des merveilles est certainement la fameuse place d'Espagne. Exactement. Et pour connaître la fabrication de ces céramiques, ne manquez pas le quartier de Triana, car il y a belle lurette que ces azulejos sont fabriqués sur place. Dans la première partie de notre émission Capitale, nous avons montré avec Christine une image générale de Séville que nous visitons aujourd'hui.
Et certainement sous le soleil. Elisabeth, quel sera notre point de départ pour visiter la ville?
Alors, commençons peut-être par le berceau historique, donc par la cathédrale. Dans un quartier en permanence animé, cette cathédrale monumentale est un chef-d'œuvre gothique qui trône tout à côté du sublime palais Mulejar, le Real Alcázar.
Et pourquoi dis-tu monumentale? Elle est si grande?
Oh oui, construite au XVe siècle, la cathédrale de Séville s'étend sur 23 000 mètres carrés.
Oula.
C'est l'exceptionnel symbole des monuments érigés à la gloire de la reconquête catholique, construit à la place de l'ancienne grande mosquée almohade.
Bâtissons une église si grande que ceux qui la verront nous prendront pour des fous, décidèrent les chrétiens en 1401 au moment d'abattre la grande mosquée.
D'ailleurs, les chiffres en disent long. La cathédrale s'étire sur 126 mètres de longueur et de 83 mètres de largeur. Sa hauteur maximale est de 37 mètres, comme notre cathédrale, et sa tour, la Giralda, compte 25 cloches, et le poids de son giraldillo...
C'est la petite girouette.
Oui, c'est ça, il s'élève à 2 tonnes.
D'accord, et la grande girouette, c'est la Giralda.
Oui, c'est ça. Alors, on peut en dire, c'est l'emblématique, je dirais même magistrale, Giralda, et la tour... Certainement la plus svelte de l'architecture musulmane. Mmh. Alors, si vous montez les 35 paliers de la rampe que le muezzin parcourait à dos d'âne et 5 fois par jour, vous serez récompensé, mais vous irez à pied, n'est-ce pas, par la vue époustouflante. Cet ancien minaret de la grande mosquée almohade fut converti en clocher pour la cathédrale au XVIe siècle et coiffé de la statue, l'archiraldillo, le symbole du triomphe de la foi catholique.
Et maintenant, rentrons dans la cathédrale et commençons par visiter la Capilla Mayor et arrêtons-nous devant le gigantesque retable gothique de 220 mètres. C'est ça?
Exactement.
Incroyable.
Conçu en
1494.
Alors, après ce halt, indispensable, trouver le monument dédié à Christophe Colomb, où les quatre portes représentant les royaumes de Castille, Léon, Aragon et Navarre soutiennent la tombe du grand navigateur. C'est en 1898, à la fin de la domination espagnole sur l'île de Cuba, que la dépouille de celui à qui nous devons la découverte du Nouveau Monde a été transportée de la Havane jusqu'à la cathédrale de Séville.
Donc où il repose. Et en vous promenant dans la cathédrale, admirez aussi les chefs-d'œuvre de Zurbarán ou de Murillo, et puis les chapelles richement décorées, ou encore la Vierge des Rois, la Virgen de los Reyes,
yes, exact,
ça,
bravo.
Qui est une icône gothique de l'école française.
Alors en fait, elle est vénérée par les Sévillans, qu'aurait offert le roi Saint-Louis à son cousin Ferdinand III, roi de Castille. Alors, selon la légende, au pied de la Vierge, la magnifique urne en argent et en cristal qui s'y trouve, bien entendu, conserve intact le corps de Saint Ferdinand. Alors, en quittant la cathédrale, faites un tour dans le patio des Orangers, où avant la reconquête, les fidèles faisaient leur ablution avant de rentrer dans la mosquée. Et levez-vous les yeux et vous découvrirez un crocodile en bois sculpté.
Un crocodile? Qu'est-ce qu'il fait là?
Alors en réalité, c'est plutôt un lézard qui est la réplique de celui que le sultan d'Égypte offrit en cadeau au roi Alphonse X en demandant la main de sa fille.
Et il y a eu mariage ou non?
Alors bonne question, à laquelle j'avoue, je n'ai pas la réponse.
Dommage.
Alors tout en y réfléchissant, partons juste à côté et visitons l'Alcázar, le plus ancien palais royal d'Europe, qui est un véritable joyau appartenant au patrimoine de l'humanité.
Comme notre cathédrale de Chartres, d'ailleurs.
Oui. Mais la comparaison s'arrête là,
oui.
Car la cathédrale est vraiment... il n'y a pas de changement, a été construit très rapidement.
D'emblée, oui, c'est ça.
Voilà. Alors que l'Alcázar est un ensemble hétéroclite.
Très différent.
Exactement.
Ce mélange des styles
Voilà, Mudéjar, gothique, renaissance, baroque, rococo. Et de ses origines musulmanes, il conserve la fameuse muraille almohade.
Alors, au fait, Elisabeth, qu'est-ce qu'on appelle le style Mudéjar ou, comme tu dis, Mudéjar?
Oui, bah oui, c'est ça, parce que le J en espagnol, c'est la
ça.
Jota, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, c'est l'art réalisé par les artisans musulmans vivant en territoire chrétien après la reconquête. Et la splendide façade de ce palais élevé entre 1364 et 66 est l'un des fleurons de l'art mudéjar. Le roi Pierre Ier, dit le Cruel, fit appel aux meilleurs artisans musulmans et juifs de Grenade pour la construction.
Et je pense que la visite de l'Alcazar va demander certainement plusieurs heures.
Ah oui, et comme il y a les jardins, voilà, vous y passerez un bon moment. Alors d'autant plus que, donc, en outre des patios, comme celui des Doncelles ou celui de Las Muñecas, ou l'extraordinaire salon des ambassadeurs, qui à l'origine était la salle du trône du roi Al-Mutarnid, il y a ces jardins réorganisés par Charles Quint, mêlant les styles arabe, français et renaissance.
Et après ces belles découvertes, un peu de repos s'impose sur la place Virgen de los Reyes, la place Vierge des Rois, tout en admirant la façade baroque du palais de l'archevêque.
Alors que vous pouvez visiter, bien sûr. Et après, allons dans l'ancien quartier des Juifs, à Santa Cruz, aux petites places fleuries, aux patios ombragés, qui est le quartier le plus touristique de Séville, et dont vous devriez savoir que le Gom Murillo y a vu le jour.
Un quartier tout à fait charmant. Et vous pourriez y visiter les jardins qui portent aussi le nom de Murillo, le jardin Murillo, où vous apercevrez une représentation en bronze de la caravelle de Christophe Colomb, la Santa Maria.
Voilà. Et photo oblige, vous devez vous arrêter au cours de votre promenade dans ce quartier sur la place Doña Elvira pour photographier les charmantes façades. Et si vous êtes fatigué, goûtez à l'art de vivre arabo-andalou dans un palais du XVIe siècle caché dans une ruelle de Santa Cruz où vous pourriez vous ressourcer dans des bains arabes.
Et après ce repos à l'oriental, vous serez certainement prêt à découvrir les boutiques d'artisanat du centre de Séville.
Alors, tout en goûtant à l'animation bouillonnante de la place Nueva, avec la statue de Ferdinand III, n'oubliez pas, c'était le cousin de Saint-Louis, n'est-ce pas ? Au centre de la place, et en admirant le bâtiment de la mairie du pur style renaissance sévillane, avant de prendre la direction de la place du Sauveur.
Où vous pourrez visiter l'église du même nom, l'église du Sauveur, de style baroque, qui fait presque de l'ombre à la cathédrale, tant elle est grandiose.
Alors, comme la cathédrale, elle est construite aussi sur l'emplacement d'une ancienne mosquée, dont il reste encore quelques vestiges, sans oublier l'intérieur de l'église qui vous réservera de très belles découvertes. Alors après, passez par la fameuse rue des Serpents,
là, attention,
la Calle de los Serpientes, arrêtez-vous devant le numéro 52 et ayez une petite pensée pour Cervantes qui a écrit ses œuvres tout en étant incarcéré, et c'est, paraît-il, c'est à ce moment-là qu'il aurait imaginé le personnage de Don Quichotte.
C'est très important, ça, pour la littérature espagnole.
Exactement.
Mais profitez...
Et mondiale.
Et oui, exactement. Mais profitez aussi de l'ambiance de cette rue, la plus commerçante de Séville, avant de prendre la direction du quartier Alfalfa, l'un des plus anciens de la ville et truffé de couvents et d'églises.
Alors, la petite place Alfalfa, l'ancienne place du marché au foin Alfalfa en espagnol ou Luzerne, a donné son nom au quartier où vous devriez visiter plusieurs églises et couvents comme la Santa Catalina ou le San Pedro avant de prendre un pot dans le plus ancien bar de Séville à El Rinconcillo.
El Rinconcillo, le petit coin. Et après, nous vous invitons à une promenade dans le magnifique parc Maria Luisa, créé pour l'exposition ibéro-américaine de 1929. Et c'est un très bel itinéraire botanique à parcourir à pied.
Ou en calèche, pour mieux apprécier les eucalyptus géants, les oliviers, les palmiers, etc., etc. Et les sentiers sont très fréquentés par les sportifs. Vous y rencontrerez nombreux footing, jeunes qui font du footing, qui courent.
Voilà, exactement. C'est un endroit merveilleux. Et en plus de la belle végétation, on y trouve aussi des bâtiments intéressants.
Alors, bien sûr, ceux de l'exposition 1929, dont le plus majestueux reste et le plus symbolique, sans conteste, la place d'Espagne,
très
qui symbolise le pouvoir des rois catholiques et représente avec des azulejos magnifiques les 4 anciens royaumes ainsi que les 58 provinces d'Espagne.
Une place vraiment exceptionnelle et très très intéressante. Et dans le parc, cherchez aussi la place des colombes, la place Las Palomas, où par moments une colonie de colombes blanches tapisse le sol et crée un effet de neige qui est vraiment spectaculaire. Et après, en sortant du parc.
Alors, juste encore, je signalerai juste que dans le parc, on trouve aussi la place de las Américas, donc
oui,
où il y a des magnifiques bâtiments, voilà, en relation avec les pays d'Amérique latine qui donc ont été découverts par les Espagnols. Voilà. Alors, sais-tu, Christine, que Séville fut la ville la mieux fortifiée d'Europe au XIIe siècle? Les murailles construites par les Almoravides protégeaient la ville contre les assauts ennemis et aussi les redoutables inondations du Guadalquivir,
fleuve de Séville.
Exactement.
Et que reste-t-il aujourd'hui de ces murailles?
Alors, très peu de choses, mais juste quelques bastions et une belle tour polygonale dans le quartier de la Macarena, oui, c'est ça, où vous devrez visiter aussi la basilique et sa Vierge, la plus vénérée dans la ville. C'est la Vierge de l'Espérance que représente une magnifique statue baroque.
Encore un autre quartier à découvrir?
Oui, alors il y a l'Alameda peut-être et la place du même nom qui occupe une ancienne zone marécageuse asséchée au XVIe siècle et qui est devenue une magnifique promenade arborée au XVIIe. Et ensuite, ça a été un petit peu laissé de côté, mais de nos jours, elle est devenue, cette place et cet endroit est devenu vraiment incontournable de la vie nocturne à Séville.
Et ce quartier à la Meda renferme aussi des églises, des couvents ou des monastères en grand nombre, comme Saint-Clément, Sant'Clemente, j'imagine,
oui, c'est ça.
Ou Santa Clara.
C'est ça. Alors n'oubliez pas d'admirer à l'entrée de l'esplanade qui mène à la place les deux statues romaines représentant Hercule qui aura créé la ville,
fondé
n'est-ce pas,
la ville,
voilà, et Jules César qui a préparé ses premières murailles. Alors, et puis quelques mots peut-être du quartier des Arts.
Oui, un quartier très élégant, artistique, aux ruelles bordées de riches maisons traditionnelles. Le Barrio San Vicente.
Voilà, non,
Saint-Vincent.
Il n'y a pas de tchou en espagnol.
Ah, non, pardon.
On n'a pas l'italien.
D'accord.
Alors, vous
je prends
pourriez,
l'accent italien.
Exactement. Alors, vous pourriez visiter le Musée des Beaux-Arts, deuxième pinacothèque de l'Espagne, après celle du Prado de Madrid, et admirer la statue en bronze de Murillo, hommage de Séville à son plus célèbre artiste. Et encore un endroit à découvrir, c'est le quartier populaire de Triana dont on a parlé pour les artisanats, mais qui a aussi donné naissance à de nombreux toreros et d'artistes du monde de flamenco.
Et ce quartier de Triana est situé au bord du Guadalquivir et il s'en dégage une ambiance de fête et de tradition.
Alors les traditions dont nous parlerons après une nouvelle pause musicale. Je crois, Christine, que Séville mériterait deux émissions capitales, tant il y a des choses à voir. Et je me rends compte que nous commençons à manquer un peu de temps.
Alors, on a déjà dit beaucoup de choses, mais pourtant, il faudrait bien parler des fêtes. Des fêtes diverses, de la Feria, de la Reine et tout ça.
Alors, on ne peut parler de Séville sans évoquer les célébrations de la Semaine Sainte, qui est le point culminant des fêtes religieuses. C'est assez spectaculaire. Les 50 confréries religieuses rivalisent d'efforts entre le dimanche des Rameaux et le dimanche de la Résurrection. Séville est un théâtre continu de processions et ceci crée une ambiance absolument unique au monde.
Ah oui. Tout à fait. Et après les fêtes de Pâques, à la fin mai et début juin, il y a le pèlerinage del Rocío, l'un des pèlerinages les plus importants d'Espagne.
Alors à ce moment-là, donc, la ville se vide, ses habitants partent à pied, à cheval ou à charrette, à l'ermitage del Rocío, pour y vénérer la Blanca Paloma.
La Blanche Colombe.
Exactement, qui est donc une icône de la Vierge Marie.
Et que peux-tu dire sur la fameuse feria ?
Alors, la feria, ça se trouve entre les deux, justement entre Pâques et, le pèlerinage. Et contrastant avec l'ambiance pieuse de la Semaine Sainte, la feria de la fin du mois d'avril est entièrement consacrée à la fête. La première feria, organisée par un Basque et un Catalan en 1847, était pourtant destinée à accroître les richesses agricoles.
Donc en fait, c'était d'abord un grand marché aux bestiaux.
Oui, et autour de cette foire, une incomparable fête s'était développée et petit à petit éclipsa la dimension économique. Et aujourd'hui, la feria est la fête emblématique de Séville.
Et pour s'y rendre, des habits de fête sont presque obligatoires, comme ces belles robes colorées à volant.
Absolument, mais c'est hors de prix. Et heureusement, ce n'est pas pour les touristes, donc ce n'est pas une obligation. Et c'est seulement pour les Espagnols.
Et le flamenco, on n'en a pas encore parlé. Le flamenco qui se chante, qui se joue et qui se danse.
Oui, dans les tavernes ou même sur les trottoirs, dans les rues. Le flamenco est l'essence de l'Andalousie qui ne se décrit pas. Il faut le voir, l'entendre pour l'apprécier à sa juste valeur.
Comme tout l'art de vivre à l'Andalouse, que les Sévillans pratiquent tout au long de leur vie.
Alors, comme par exemple la sieste, qui est incontournable, surtout en été.
50 degrés.
Oui, c'est ça, où la chaleur est vraiment difficile à supporter. Et aussi, il faut goûter aux saveurs andalouses et apprécier la gastronomie qui s'est enrichie au fil des siècles sous l'influence des cultures étrangères.
Et puis, avant de quitter Séville, entrons dans l'arène.
Alors, que vous aimiez ou non la corrida, c'est un spectacle rituel, dramatique, mais haut en couleur, et en même temps un élément essentiel de la culture espagnole. Et puis, visitez aussi non loin de là, au bord de la Guadalquivir, la Tour d'Or, où arrivait l'or des Américains.
L'or des conquistadors.
Oui, c'est ça.
Et peut-être un mot sur les tapas que l'on trouve partout.
Alors voilà, pour finir, tapa veut dire en espagnol couvercle. Ah, à l'origine, il s'agissait des tranches de saucisson que l'on posait sur le verre de vin pour protéger le contenu. Et on dit aussi que le roi Alphonse X, qu'on appelait le sage, obligeait les taverniers à servir quelque chose à manger avec l'alcool. C'était plus facile
pour
à
le
digérer
plaisir,
avec la chaleur.
Voilà, c'est ça, par souci diététique peut-être.
Peut-être, nul ne saura, mais que cela ne vous empêche pas de les déguster.
Et c'est tellement bon et tellement varié aussi. Hein. Et au cours de les déguster, bien sûr, au cours de votre découverte de la belle capitale de l'Andalousie, Séville.
Que j'espère nous avons donné envie d'y aller. Alors à bientôt pour une autre émission capitale sur Radio Grand Ciel.
Lleva mis ojos.